Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance et aujourd'hui, on a un invité totalement extraordinaire. On a Stéphane Garneau, président de Micrologie, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous le dis, l'entretien que j'ai eu avec Stéphane a été un de ceux qui m'a fondamentalement marqué, je dirais, dans les derniers mois, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer aujourd'hui, que vous allez pouvoir découvrir dans l'enregistrement du jour. De un, Stéphane a acheté Micrologie vers la fin des années 2000, donc dans le coin des années 2009, où il a racheté l'organisation. Avant ça, il avait travaillé dans une grosse organisation qui était présente dans la province et il était directeur de la succursale de la ville de Québec. Il rachète l'organisation au début 2009, je crois bien, et c'est une passation qui a pris 3-4 ans avant de vraiment se mettre en place. Et à partir de 2012-2013, il devient président de l'entreprise. Et à partir de ça, là, il a vraiment implanté une nouvelle phase, une nouvelle vague de croissance à l'organisation Micrologique. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, Micrologique, à la base, quand il l'a acheté, c'était des revendeurs Apple, des revendeurs Mac. Donc, il vendait plusieurs de ces types de produits-là. Il a totalement changé l'organisation et en l'espace, littéralement, de quelques mois, je pense même dans la première année, ils sont passés de 5 à 25 millions de chiffre d'affaires. C'est assez exceptionnel. Par la suite, on voit également dans l'entretien le lancement de leur projet Cirrus, qui a été un cloud et qui est toujours un cloud québécois. Et c'est un des projets assez exceptionnels que j'ai pu voir parce que c'est 100% autofinancé. On parle d'un projet technologique, la création d'un cloud québécois ici. Et Stéphane, à l'intérieur de l'entretien, nous démontre à quel point qu'ils grandissent vite et que d'ici quelques années, ils vont atteindre 100 millions de chiffre d'affaires avec le projet Cirrus. Donc, c'est assez exceptionnel. On voit également la croissance des autres sphères de services à l'intérieur de Micrologique pendant l'entretien. Et ce qui m'a marqué pendant ma conversation avec Stéphane, c'est sa vision de grandeur. On voit pas ça très souvent au Québec, mais on voit vraiment un entrepreneur ici qui voit grand, qui a de l'ambition et qui veut changer le monde. Et il le dit ouvertement et on sent en l'écoutant que c'est vrai et qu'il a un plan très, très clair, un plan qu'il est capable de bien exprimer. Et vous allez voir, c'est un leader assez inspirant. Donc, j'espère que comment vous allez apprécier l'entretien. Et je vous le demande encore une fois, avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, si vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube en format vidéo, que ce soit à l'audio, sur Spotify ou Apple Podcasts, ça change tout pour nous. Si vous pouvez simplement vous abonner et également peut-être nous donner un petit review, un petit 5 étoiles, ce serait très apprécié. Et sur ce, je vous dis bon épisode pour l'entretien avec Stéphane Garneau, président Micrologique.
Et c'était à notre portée de le faire. C'était pas sexy d'être le plus petit, d'être tous les grands, mais c'était quand même à notre portée. Puis je me disais, on va apprendre, on va comprendre. Puis même si on déploie les grands clouds, parce que tu sais, on est aussi partenaire avec les grands clouds, dans ma tête, c'est pas des compétiteurs. Moi, ce que j'essaie de faire, dans le fond, c'est d'apporter un complément à ces joueurs-là. Parce que tu sais, c'est assez difficile de dire je compétitionne Microsoft, Amazon ou Google. J'aime mieux dire je complémente ce que Amazon, Google et Microsoft font, mais avec ma sauce à moi puis avec l'expertise que j'ai réussi à y apporter.
Stéphane Garneau, vous êtes le président de l'entreprise Micrologique, une firme de TI qui a grandement évolué à travers les années pour maintenant devenir un des trois plus gros joueurs canadiens dans la catégorie cloud via son projet Cirrus, nom donné à votre solution infonuagique. Micrologique, l'entreprise que tu as rachetée il y a maintenant 15 ans pour 70 000 $ a généré, depuis ton rachat, 1,3 milliard de $ en revenus. Stéphane Garneau, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
J'en ai quasiment des frissons quand tu le dis comme ça, Antoine.
Je ne dis que la vérité. Je ne dis que c'est la ça. Vérité, Stéphane. Et là, Stéphane, on va avoir un entretien totalement fascinant, toi et moi, aujourd'hui. J'écoutais des entretiens que tu as donnés. On a discuté également, toi et moi, ensemble. Tu as de la suite dans les idées, la croissance, ça te connaît, l'hypercroissance, ça te connaît. Mais avant qu'on parle de cette belle histoire, j'aimerais que tu nous parles plus concrètement. Qu'est-ce que Micrologique? Parce que vous étiez un revendeur de Apple, de produits Apple à ton arrivée. Vous êtes rendu une solution infonuagique. Peux-tu nous décrire, là, en quelques mots, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils soient capables de bien situer ton entreprise, qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Le début, effectivement, de Micrologique est un peu difficile à cerner par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je compare souvent, tu sais, des fois, les entreprises vont acheter une coquille boursière, puis ils vont développer leur business à travers cette coquille-là. Je dirais pas que Micrologique, c'était une coquille, mais quand je suis arrivé dans le contexte Micrologique, c'était clair pour moi que l'avenir de Micrologique passait pas par vendre des PC à monsieur et madame tout le monde dans la rue. fallait qu'on ouvre un secteur de marché différent, fallait qu'on soit plus, je voulais plus être dépendant du magasin, je voulais vraiment parler en termes de région, en termes de marché. Je voulais avoir ça comme discours. Donc, on a fait un virage. On a cessé, dans le fond, les activités de vente d'équipements informatiques à monsieur, madame, tout le monde. On s'est concentré vers le secteur entreprise, le secteur industriel, où il y a des volumes d'affaires qui sont plus grands, où ce que quand tu dégotes un contrat souvent en équipement, surtout si dans le monde du centre de données, dans le monde de la sécurité, puis des composantes un peu plus lourdes, là, je vais dire c'est comme ça. Ben, veux pas, c'est des, tu sais, un ordinateur coûte 1 000 $, puis un centre de données peut coûter 100 000 $ jusqu'à 1 000 000. Fait que c'est plus facile de voir des gros chiffres, je vais le dire comme ça, dans le contexte des centres de données. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. Je suis arrivé chez Micrologic, dans le fond, dans un contexte de, je vais l'appeler ça, de redressement, parce que Micrologic, c'est une business qui avait déjà une trentaine d'années. Le propriétaire fondateur voulait vendre sa business. Moi, j'arrivais en se disant, ben, je vais te racheter ta business, mais pour identifier le bon prix, là, on gèle les actions aujourd'hui. Fait que c'est le fameux 70 000 $ que tu parlais tantôt. Puis 2-3 ans plus tard, je finalise la transaction. Puis là, la valorisation que je vais y avoir donnée, ça va être le chèque que je te fais. Donc ça, c'est le deal que j'avais fait au départ avec le fondateur. Fait que lui, le premier morceau, en guillemets, ça y a pas fait de mal de vendre le 70 000 $ parce qu'il savait que l'autre portion que je rachetais, c'était suite à ma contribution initiale. Puis, tu l'as vu dans les chiffres, ma contribution initiale a été instantanée, là. Et aussitôt qu'on a fait le virage de « on vend plus de PC à monsieur, madame, tout le monde, mais on se concentre au volet industriel », ça a explosé. Là, on a tombé à 25 millions excessivement rapidement. Puis la suite, on va en parler aujourd'hui de la suite.
Et oui, et avant de parler de ce début, parce que c'est souvent là que je commence avec les podcasts, j'aimerais te poser une question un peu différente aujourd'hui, Stéphane, pour commencer. On est en février 2024, le 16. T'as généré avec ton équipe, bien entendu, 1,3 milliard de revenus depuis que tu as repris l'organisation, un chiffre qui est assez impressionnant, plus de 200 millions de chiffre d'affaires à l'année, c'est exceptionnel. Est-ce que tu pensais te rendre un jour quand tu as racheté l'organisation?
À ce point précis ici, je te dirais oui. Je vais le dire aujourd'hui, là, la réponse est oui, parce que c'était ça le plan. Le plan, c'était vraiment, c'était ça. Tu sais, je me rappelle là quand j'ai rencontré les investisseurs il y a 2 ans pour notre première ronde, je leur expliquais le plan, puis je leur montrais les fiches de notre projet 10 ans auparavant, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. Là. Fait que c'était ça le plan, de me rendre à 200 millions, c'est pas une surprise, d'avoir les équipes qu'on a, puis le secteur qu'on a, c'est pas une surprise. La surprise en cours de route, c'était la découverte du cloud et la découverte des types de business là, d'abonnement, puis ce type de volet-là avec le client qui est un peu plus engagé, mais pour lesquels on en donne un peu plus aussi. Fait que ça a été une découverte et c'est ça qui est le game changer aujourd'hui. Fait que du moment du rachat à aujourd'hui, est-ce que je suis surpris? Non. Mais à partir d'aujourd'hui, demain, est-ce que je suis excité de par le potentiel que j'ai découvert dans les 10 dernières années? Et c'est x 1 000 la réponse.
Bon. Et on va en parler dans quelques minutes ensemble. Mais revenons en arrière. Ouais. Parlons de ta carrière au début des années 2000. Tu as œuvré pendant 10 ans chez l'entreprise Microserve. Tu as été actionnaire de l'organisation, tu étais en charge de la Ville de Québec et de d'autres départements également. Un mandat de redressement un petit peu que tu faisais dans l'entreprise. Parle-nous un petit peu de ça. Qu'est-ce que tu faisais spécifiquement chez Microserve et quelle expertise as-tu été capable de développer là-bas qui a pu t'aider par la suite avec ton entrée chez Micrologic?
Ta question est très pertinente puis tu vas comprendre c'est quoi le lien. Puis pourquoi je suis pas surpris du 175 ou du 200 ou du 200 et quelques millions, c'est que Microserve était, il y a 20 ans, 20 quelques années, était une shop Apple qui vendait à monsieur madame au coin de la rue et qui voulait se diriger vers la vente aux entreprises, qui ont pris un virage, qui ont réussi. Puis quand je dis « ils », je faisais partie de l'aventure. J'étais à ce moment-là actionnaire minoritaire. Puis on a fait exactement, dans le fond, la même histoire que j'ai répétée chez Micrologic. Donc, on adressait les clients de grande envergure, on adressait la business de grand volume avec une spécialisation, centre de données, sécurité, tout ce qui est compliqué. Là. Si c'est facile, c'est pas notre game. Faut que ça soit compliqué pour qu'on le fasse puis qu'on soit passionné par ça. Donc, c'est un peu ça. Puis, tu sais, le volet redressement, la business était en difficulté quand on était arrivé. Puis, on en a fait un succès honnêtement impressionnant. À un moment donné, j'ai vendu mes actions, puis on a eu, j'ai eu une opportunité d'acquisition là, justement de Micrologic. Puis là, j'avais le goût. Tu sais, quand tu le fais en tant qu'associé avec une équipe, puis que t'es minoritaire, il y a quand même un apprentissage que tu fais, il y a quand même une compréhension que tu fais. À un moment donné, ça te tente juste de dire, ben, ça fait 10 ans là, que je ne vis que de redressement, puis que pas que de redressement, mais tu sais que j'ai mon bagage d'expérience a été fait en fonction de tout ça. Ben là, je peux l'appliquer une seconde fois. Fait que c'est un peu ça l'étape 1 de 2 là. Ouais.
Et juste pour être certain de bien décortiquer, qu'est-ce qu'on veut dire par redressement ici dans l'environnement de Microserve, peut-être de Microserve, peut-être tu peux juste nous expliquer concrètement au quotidien à quoi ressemblait ton travail.
Ben, tu sais, Microserve, là, tout comme Micrologic, à un moment donné, sont arrivés au moment où ce que l'offre de service ou le catalogue qui était proposé était moins populaire ou était moins moins tendance. Donc, il fallait arriver puis créer un nouveau souffle, créer une nouvelle impulsion. Fait que dans mon vocabulaire de redressement, c'est par où on commence au niveau la propulsion, puis c'est où qu'on commence pour faire un changement de structure. Fait que chez Microserve, on l'a fait de cette façon-là. Et tu sais, ça faisait partie aussi d'un grand réseau pan-canadien là de différents partenaires. Puis ce qu'on avait fait avec succès chez Microserve, ben, on était appelé aussi à aller aider les autres firmes qui se retrouvaient un peu dans cette situation-là. Fait que tu sais, je te dirais que mon bagage d'apprentissage, d'aller voir des firmes qui sont pas dans une inclinaison profonde et accentuée, mais plutôt en décroissance, c'est là que je suis bon. Là. C'est dans ce contexte-là que j'arrive, que je suis capable de synthétiser. C'est quoi qui fonctionne bien? Ben on bâtit sur ce qui fonctionne bien. Puis ça, cette phrase-là, je l'ai dit encore. J'avais un meeting avec mes employés ce matin. Puis tu sais, des fois on travaille pendant des mois, des années, on essaie des choses. Puis il faut la faire cette réflexion-là, de synthétiser. C'est quoi qui fonctionne bien? Puis on continue après là. Ben ça, c'est ma force là, de la synthèse, de voir un peu de façon macro qu'est-ce qui se passe dans une organisation, de mettre le doigt sur ce qui fonctionne bien, puis de l'extraire, puis de partir. C'est un peu ça ma force.
Intéressant. Et bon. Tu fais ton temps chez Microserve, hein? C'est difficile, je vais essayer de faire attention. Donc, Microserve, tu fais ton temps chez Microserve de 2000 à peu près 2009. Et là, il y a un chasseur de tête qui t'approche pour prendre la relève de l'entreprise Micrologic. Le fondateur Gaston Thivierge cherchait des repreneurs à l'entreprise. Et là, c'est assez intéressant parce que tu rejoins l'entreprise en 2009 et finalement, tu deviens président en 2012. Il y a eu une transition de quelques années avec trois autres actionnaires. Si les informations sont bonnes, peut-être tu pourrais nous dire un peu le contexte à ce moment quand les personnes viennent vers toi, ou plutôt viennent vers vous pour reprendre l'entreprise. Comment qu'on vous expose le tout? Parce que ça me semble assez spécial de dire on vous a encerclé pour reprendre l'organisation, mais ça sera pas tout de suite. J'aimerais peut-être que tu me décortiques un petit peu la situation.
Ben, écoute, à l'époque, là, le redressement d'entreprise, pas le redressement, mais le reprenariat était moins populaire. Puis les gens savaient pas trop comment faire pour, comment je pourrais dire ça, pour obtenir une véritable valeur. Surtout quand t'es un magasin de proximité, là, t'es un magasin qui vend du Apple. T'as pas un facteur de valorisation comme on connaît aujourd'hui. Tu sais, c'était pas la même chose à ce moment-là. Puis le propriétaire fondateur savait qu'il y avait, entre guillemets, une structure administrative, qu'il y avait une équipe, là, il y avait une vingtaine de personnes à ce moment-là. Donc, il y avait déjà une base de business qui était opérationnelle, qui faisait en sorte que je pouvais arriver dans cet écosystème-là et je pouvais me concentrer uniquement sur le reprenariat, sans avoir à me casser la tête avec les RH, sans avoir à me casser la tête avec les opérations, la banque, la distribution. Tout ça était déjà en place parce qu'on l'a dit au départ, c'est une business qui avait une maturité d'une trentaine d'années. Donc ça, pour moi, ça donne une grande valeur là. Et il y avait aussi une culture d'entreprise, il y avait aussi des valeurs qui étaient bien ancrées. Donc moi, ça me permettait d'arriver du jour au lendemain puis de dire ben bonjour, c'est moi la relève. Puis by the way, on va respecter la culture en place. By the way, on est ici pour apporter un vent de changement puis quelque chose de positif. Puis si Gaston entre guillemets nous croyait ou nous faisait confiance, c'est parce qu'il nous connaissait aussi puis il avait vu ce que j'avais réussi à réaliser dans mes vies précédentes. Puis lui, plutôt que de se dire, je veux un gros chèque jour 1, ben il s'est dit, je te fais confiance, le jour 1, tu vas avoir la valeur au livre, mais quand on se reçoit dans 2 ou 3 ans, à ce moment-là, ce que tu vas avoir généré toi-même comme valorisation, ben toi, tu vas en profiter, puis moi, je vais en profiter, moi, je m'en vais, tu rachètes l'ensemble des actions, puis tu pars ton propre projet. Fait que c'était ça, le deal de départ avec Gaston. Ça a super bien fonctionné pour lui. Malheureusement, je dois dire feu Gaston aujourd'hui parce qu'il est décédé. Mais ça a super bien fonctionné au niveau du reprenariat de l'entreprise. Puis effectivement, de ne pas avoir à me casser la tête avec la mise en place de la structure et de pouvoir me concentrer sur le projet finalement de ne plus être un magasin, de se convertir en revendeur de produits et de solutions, vraiment en style grande entreprise, mais ça m'a permis de le faire. Puis ça a marché, là. Je suis forcé de constater que ça fonctionne.
Ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et dis-moi, tu as repris l'entreprise avec 3 partenaires. Est-ce que vous connaissiez à la base? Comment tout ça s'est mis en place?
Non, en fait, Guy, un de mes collègues, Guy, qui était déjà chez Micrologique depuis, lui, une quinzaine d'années, qui était responsable de toute la pratique de livraison de services, et 2 autres collègues, Steve et Rodolphe, qui étaient avec moi de mon ancienne vie. Puis on a toujours été ensemble là, dans les 20 dernières années. Fait que c'est les 3 qu'on s'est dit, bon, ben c'est le noyau là pour partir, entre guillemets, l'équation. Puis quand j'ai procédé à la transaction finale, dans le fond, avec Gaston, ben là, il arrivait à un moment donné l'opportunité pour Guy et Rodolphe que je puisse les racheter. Donc là, je suis devenu à ce moment-là 100% propriétaire, puis j'ai continué ma petite route comme ça. Mais avec des collègues qui sont toujours là, Guy et Gaston. En fait, Guy, c'est mon bras droit dans Micrologique. On se parle 94 fois par jour. Il est encore excessivement présent. Et Rodolphe aussi, donc ça n'a pas changé. La majorité, en fait, de mon équipe, je dis toujours, tu sais, pour moi qui le dis, là, mais on est la somme de qui on rencontre dans notre vie. Une bonne proportion, je dirais pas la grande, là, parce que là, on est rendu à tout près de 350, là, mais une bonne proportion de mes employés me suivent depuis 10, 15, 20 ans. Tu sais, on est la même gang depuis toutes ces années-là qu'on évolue ensemble puis qu'on suit. J'aime dire que c'est mon groupe avec qui on va prendre notre retraite ensemble. Tu sais, on a créé un noyau ensemble, là, puis c'est des gens d'exception. Là. C'est ça, ma vraie richesse dans la vie, là, au niveau corporatif, là, c'est ce noyau-là qu'on a eu. Ouais.
Quand la vision est grande, les gens aiment suivre et voir où est-ce que tout ça va pouvoir nous mener. Bon, parlons un petit peu de la reprise. L'organisation fait 5 millions à ton arrivée. Vous êtes des revendeurs Apple, comme tu l'as si bien mentionné. Et là,
Vous étiez plutôt.
Exactement. Et l'année 1, vous amenez de 5 à 25 millions. Donc là, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui aimeraient amener leur organisation de 5 à 25 millions de revenus en l'espace d'un an. Qu'est-ce que vous avez mis en place? J'imagine qu'il y a eu des mécanismes, des choses qui ont été mises en place qui vous ont amené à pouvoir atteindre ces résultats.
Je dirais, j'écoute souvent tes podcasts, Antoine, puis c'est souvent la même histoire. Quand tu commences au départ, mais tu ouvres la gratte très, très large, puis tu essaies de ramasser à peu près tout ce qui passe pour te faire un fond. Là, je le dis de façon vulgaire, mais c'est vraiment ça. Là, autrement dit, tu sais, à l'époque, je disais, si ça se branche dans le mur, qu'on peut appeler ça de l'informatique, on le vend, puis on l'installe. T'sais, c'était aussi brut que ça, là. Donc, on vendait à peu près n'importe quoi, à peu près à n'importe qui voulait bien en acheter. Puis, on avait quand même une force, là. Tu sais, j'étais connu dans le marché, j'avais une réputation. Puis moi-même, je faisais des chiffres qui étaient énormes. Là, toute ma carrière, j'ai fait des chiffres énormes. C'est pour ça que je te disais, préambule, c'est pas une surprise pour moi parce que j'ai toujours navigué dans ces eaux-là et dans ce genre de volume-là. Donc, ce potentiel-là que j'avais, j'ai essayé de le prendre, qui, moi, était tout seul, puis de faire un agent multiplicateur en donnant ma recette, dans le fond, aux gens qui m'entouraient. Tu sais, je le dis souvent à la blague, si j'étais resté tout seul dans toute ma carrière, j'aurais peut-être vendu 200 millions, mais en me mettant avec mon équipe, c'est 1,3 milliard et plus. Fait que, tu sais, moi, l'effet multiplicateur de ce qui fonctionne bien, j'adhère beaucoup à cette... Donc, c'est ce qui est arrivé. On a ouvert la gratte un peu grand. On était cherché des parts de marché, essentiellement dans le secteur public et dans la grande entreprise. Et ça a bien fonctionné. On a réussi après ça à faire un peu de ménage, puis à synthétiser c'est quoi que la clientèle avait besoin, puis un peu plus chercher à nous distinguer, puis un peu plus chercher à trouver un modèle d'affaires, dans le fond, qui était expandable. Dans le fond, si tu fais du généraliste, si tu fais du volet généraliste tout le temps, puis tu recommences toujours à zéro à chaque mandat ou à chaque client, c'est difficile d'être en mode scale, puis c'est difficile d'exporter ton savoir et ton expertise. Par contre, si tu répètes la même histoire toujours, si tu revends toujours les mêmes solutions et les produits, ben, tu deviens nécessairement meilleur avec ces solutions et ces produits-là, et tu deviens meilleur à les déployer parce que tu les fais pas juste une fois de temps en temps, mais tu les fais tout le temps. Fait que ça, c'est quelque chose que je crois beaucoup. J'aime pas dire, tu peux venir chez nous pour on te vend de tout. J'aime dire, tu viens chez nous, puis ce qu'on a choisi, nous, comme technologie, ben, on le maîtrise totalement, puis on le déploie tout le temps, les mêmes technologies. Fait que ça l'a fait un gros différenciateur dans le marché, honnêtement. J'étais une des premières shops là à oser fermer son robinet de solutions puis vraiment être un peu plus focus. Fait que, au départ, la gratte très large, on ramasse à peu près de tout. On se rend compte, en ramassant à peu près de tout, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, dans quoi on est bon, dans quoi on l'est moins. Puis année après année, on focus, puis année après année, on chaque élément dans lequel on était bon, on devenait encore meilleur. Puis c'est ça, en fait, notre histoire, là, c'est de faire des essais, hein, des essais de marché ou des essais de produits ou des essais. Les essais, des fois, prennent 6 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, prennent 2 clients, 10 clients, 100 clients. Puis on se rend compte, à un moment donné, de quand est-ce qu'on est excessivement bon puis quand est-ce qu'on est moins bon. Puis là, on prend toujours ce qui est excessivement bon. Ça, tu vas l'entendre pendant tout le podcast parce que je ne vis que de ça, cette portion-là, de ne faire ce pour quoi on est meilleur. Puis quand tu fais un comparatif de marché aussi avec tes compétiteurs, ben il faut que tu identifies comment je fais pour être meilleur qu'eux. Fait que c'est ça la base dans le fond là, c'est vraiment ça là, de déterminer comment qu'on fait pour être meilleur que nos compétiteurs, mais dans un créneau très très précis.
Et le faire plus, et le faire plus. Et bon, tout de même, tu me parles un peu client secteur public. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu penses même que ta force en tant qu'entrepreneur, c'est ça? C'est le développement d'affaires? Est-ce que c'est ça vraiment qui te caractérise?
C'était pour dire oui et non. Parce que, veux pas, comme entrepreneur, ma force, c'est la portion humaine. Fait qu'autant la portion humaine avec mes employés que la portion humaine avec les clients finaux, la transparence, on est excessivement transparent, on est très, très grandé. Fait que le volet humain, c'est ma force numéro 1. Puis là, je rajoute au volet humain, oui, le volet relationnel, le volet mise en marché, etc., etc. Mais parce que le volet humain est très, très fort, ben, je suis capable de prendre une idée puis de la véhiculer dans la business puis que les gens embrassent cette idée-là puis ce rêve-là puis ce projet-là. Ça, c'est aussi une grande force. Fait que j'hésiterais, là. Est-ce que c'est la mise en marché notre force? Est-ce que c'est de faire véhiculer des rêves, des idées puis d'avoir une adhésion de groupe? C'est 50-50.
Intéressant. Maintenant, dis-moi, quand vous avez fait les changements, t'es allé chercher des clients dans le secteur public un petit peu, et là, ultimement, l'entreprise évolue, surtout en service TI. Avant de parler de tout ce qui s'est déroulé avec le cloud, est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu dirais un peu que, essentiellement, Micrologique, c'était vraiment, c'est ça, une grande organisation en prestation TI qui a des services à des joueurs publics, à des grandes organisations. C'était ça qui définissait
exactement
un peu l'entreprise.
Ouais. Je dis souvent, on vendait des boîtes, là, parce que c'est ce qu'on faisait. On vendait des boîtes, que ce soit des PC, des serveurs, des équipements réseau. On en vend encore une quantité astronomique de d'équipements. Puis on déployait dans le fond ces équipements-là. Fait que oui, ça on le fait. Puis on le fait, tu sais, on en parle comme si c'était du passé, là, mais c'est encore ça, une grosse part
de
notre business. Ça existe encore aujourd'hui. Et on est devenu un des 10 plus grands partenaires canadiens dans ce créneau-là très précis. Fait que tu sais, aujourd'hui là, même si je parle beaucoup du cloud, puis même si je parle beaucoup de l'avenir dans le secteur qui nous préoccupe par rapport au volet revendeur des TI. Puis la compréhension de qu'est-ce qui se passe chez un client au niveau des technologies, qu'est-ce qui se passe chez un client au niveau de la protection des données, au niveau des serveurs, de la sécurité, c'était de là qu'on partait. Là, c'était ça notre cœur de d'affaires. Puis on le faisait à grand volume, donc pour les grands ministères, pour les grandes entreprises, pour les grands, la plus grande PME. Donc c'était ça initialement.
Intéressant. Et bon, le deuxième pivot, on pourrait dire, parce que le premier pivot, ça a été d'arrêter de vendre des ordinateurs à monsieur, madame, tout le monde, de se concentrer davantage sur le volet commercial. Le deuxième grand pivot par la suite, c'est déroulé en 2014, quand vous avez lancé officiellement votre projet Cirrus. Donc, de vu l'ascension qui se déroulait dans le volet cloud, les grosses entreprises américaines prenaient des parts de marché. Ça a pris du temps avant que des gens comprennent ce que Amazon est en train de faire, mais quand les gens ont compris, les grandes entreprises se sont mêlées à ce jeu-là. Et vous êtes venu vous intégrer à tout ça. Et ce projet-là a été bâti parce que tu as réinvesti littéralement tous tes profits année après année pour bâtir cette solution-là. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la genèse du projet Cirrus, que tu nous parles de comment tu avait cette vision à l'époque, comment ça s'est mis en place, et par la suite, on parlera également de l'évolution.
Oui. Projet Cirrus, le cloud, tu sais, ça faisait 2, 3, 4 ans que j'allais à tous les congrès des principaux manufacturiers dans notre domaine. Et, tu sais, on a 3, 4, 5 ans à peu près de retard technologique, là, sur ce qui se passe, par rapport au niveau américain. Fait que quand tu vas dans ces congrès-là, tu vois souvent la tendance, là, 2, 3 coups en avant de ce qui va se passer ici. Puis là, je voyais que la tendance forte qui s'en venait, c'était vraiment l'informatique par abonnement. C'était vraiment de venir consommer une solution plutôt que de déployer la solution chez le client directement. Donc ça, c'était ce que je voyais. Puis en toute transparence, je comprenais pas la valeur pour un client. Je trouvais donc que ça coûterait trop cher. Je trouvais donc que ce serait pas sécuritaire. Je trouvais donc que les équipes perdraient le contrôle sur leur TI. En fait, je trouvais plein de défauts à travers tout ça. Puis je ne comprenais pas le hype. J'arrivais pas à le comprendre. Puis à un moment donné, quand tu vas année après année, puis que tu vois que le marché s'en va là et que le client adhère et que tu ne comprends pas, ben là tu t'en vires de bord puis tu dis à ton équipe, est-ce que vous pourriez comprendre ce que je comprends pas? Est-ce que vous pourriez gratter un peu puis aller au fond des choses? Puis là, mes équipes à l'époque se sont mis à dire, ben on pourrait en fabriquer un petit cloud. Tu sais, on pourrait s'installer une couple de serveurs dans un centre de données, une couple de boîtes de stockage. Puis écoute, à l'époque là, je pense la version 1 de Projet Cirrus là, c'était 300-400 000 là, c'était ça la première acquisition qu'on a faite. Puis là, les technologues se sont mis à jouer là-dedans. C'est pour ça qu'on l'a appelé Projet Cirrus là. C'était pour nous, c'était vraiment un projet de compréhension. On voulait comprendre, premièrement, c'était quoi la valeur pour un client. Puis on voulait comprendre aussi qu'est-ce qui se faisait de bien, puis y a-t-il une place pour nous, là? Puis quand je dis y a-t-il une place pour nous, c'est y a-t-il une place à l'amélioration dans ce qui se fait dans le marché. Puis c'est comme ça que le projet Cirrus est arrivé. Puis là, quand tu commences à travailler dans ce projet-là, puis que tu sais ta business, ça roule à plein régime, là, on s'entend, là, on était dans ces années-là, là, dans, on avait franchi le 100 millions, je pense, probablement pas loin. Tu sais, c'était la pédale au gaz était dans le fond. J'étais rendu à 30 représentants, si c'est pas 40. Ça roulait, là. C'était fou le volume qu'on faisait, là. Je te donne un exemple, là, dans la santé, on pouvait vendre 50, 60 000 ordinateurs par année, là. C'était huge, là. Oh, oui, c'est quand je te parle de volume, là, puis de grandes entreprises, c'est des énormes volumes, puis c'est des grands dossiers, puis des grands projets. Donc, je revenais tout le temps de ces congrès américains-là. Et puis là, je demandais à ma gang, il se passe quoi, puis comment qu'on fait ça. Puis finalement, ma gang, ils ont réussi à trouver que ça se faisait. Ils ont réussi à trouver que le marché, de la manière qui est fait, t'as pas besoin de dépenser des milliards et des milliards R&D pour bâtir un cloud, parce que la majorité des technologies sont ouvertes, la majorité des technologies sont accessibles et disponibles. Puis c'était à notre portée de le faire. C'était pas sexy d'être le plus petit, d'être tous les grands, mais c'était quand même à notre portée. Puis je me disais, on va apprendre, on va comprendre. Puis même si on déploie les grands clouds, parce que tu sais, on est aussi partenaire avec les grands clouds. Dans ma tête, c'est pas des compétiteurs. Moi, ce que j'essaie de faire dans le fond, c'est d'apporter un complément à ces joueurs-là. Parce que tu sais, c'est assez difficile de dire je compétitionne Microsoft, Amazon ou Google. J'aime mieux dire je complémente ce que Amazon, Google et Microsoft font, mais avec ma source à moi, puis avec l'expertise que j'ai réussi à y apporter. Donc c'est un peu ça qu'on cherchait. Puis tu sais, quand je dis on cherchait là, on cherchait vraiment. Puis là, on déploie une solution, on en déploie une autre. On le disait très ouvertement aux clients, c'est un projet actuellement. Et ce projet-là, ben toi, monsieur le client, tu vas faire partie, dans le fond, de l'évolution de ce projet-là. Fait que, il va y avoir un avantage pour les deux parties. Fait que ça, on a fait ça énormément. Puis au fil des années, on a trouvé notre place. Là. C'est un peu ça, dans le fond. Mais le point de départ de Projet Cirrus, c'était ce qui se passait aux États-Unis, d'essayer de comprendre c'est quoi la valeur pour le client.
Et là, on va en parler un petit peu, parce qu'effectivement, vous avez été capable de trouver les points d'inflexion qui ont fait grandir cette ligne d'affaires plus que, pas nécessairement plus que les autres, parce que vous aviez déjà des lignes d'affaires assez importantes, mais dans une catégorie totalement distincte. Là. Donc, le projet frappe un coup de circuit. Vous travaillez avec des grandes entreprises, les gouvernements, les organisations publiques. La solution va bientôt frapper 100 millions de dollars en revenus récurrents annuels. Oui. Là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ça, de commercialisation, parce que là, tu peux pas simplement me dire, Stéphane, tu peux pas simplement me dire que c'est à cause que les gens te connaissaient que vous avez atteint 100 millions. Là. Je veux dire, vous avez dû mettre des choses en place pour arriver à cette croissance-là.
OK. On va revenir à notre projet Cirrus. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la business traditionnelle, donc on va l'appeler le micrologique, là, ou ce qui vend
service TI.
Astronomique. Service TI, on va l'appeler comme ça, service TI. Je trouvais qu'il y avait un danger de continuer cette croissance-là. Les marges, quand tu vends des équipements, sont plus petites. Le fait de devoir déployer ces équipements-là un peu partout, tu sais, plus ça allait, nous autres, là, plus notre territoire géographique grandissait, puis plus c'était compliqué pour moi d'avoir une prestation de service répandue. Là. Tu sais, de répandre ma prestation de service, je commençais à trouver que c'était compliqué. Puis à chaque fin d'année, je fermais. Tu sais, nous autres, c'est le 30 avril. Là. À toutes les 30 avril, je finissais mon année, je regardais, puis je me disais, ah, c'est cool, cette année, on vient de faire 75 millions. Ah, c'est cool, on vient de faire 100 millions. Puis là, j'étais nerveux pour les prochaines années qui s'en venaient, parce que je me disais, on dépend du secteur public, on dépend de la grande entreprise, on dépend de... Si, tu comprends, je devenais dépendant du marché dans lequel j'évoluais, et ce marché-là ne me permettait pas de m'étendre. c'est outre de faire des acquisitions de d'autres vendeurs comme Micrologique, Pan-Canadien, là, j'avais atteint pas mal ce que moi, je pouvais faire au niveau de l'expansion. Puis je ne trouvais, entre guillemets, pas safe pour la pérennité de l'organisation. Là, ça allait bien. Là, on avait une croissance. Puis là, entre guillemets, on contrôlait la chose. Mais je voyais pas ça sur un horizon de 20 ans ou de 10 ans dans un contexte de pérennité. Puis quand je faisais l'analyse du cloud, puis que quand on essayait de comprendre puis d'apprendre, ben je comprenais aussi les modèles financiers, je comprenais aussi les modèles de facturation, je comprenais aussi les modèles d'abonnement. Et là, tu comprends, ça a fait un peu ça dans ma tête. Puis là, c'était clair dans ma tête que le côté revendeur de produits venait clairement financer la pérennité de l'entreprise. Fait qu'on se servait du volet revente, où ce que je trouvais ça don extraordinaire, puis je trouvais ça, puis je le trouve encore don extraordinaire parce que c'est un volume énorme, mais je peux pas mettre entre guillemets ma paye sur les 10 prochaines années dans ce marché-là. Est-ce que ça va aller en érosion puis tout le monde va aller dans le cloud? Est-ce qu'il y a une COVID qui va arriver? Est-ce qu'il va, tu comprends, il peut y avoir plein d'éléments. Puis là, au début, tu sais, quand t'es une petite business, tu dis j'ai 5, 10, 15 employés, on fait du mieux qu'on peut, puis shit happens, ça arrive. Quand t'es rendu à 200 puis 300 employés, là, c'est là que tu t'installes dans un contexte de, OK, là, je veux de la pérennité, pas juste pour l'année prochaine. Mais, tu sais, comment je fais pour envisager le 5-10 ans? Puis, en essayant de comprendre l'info nuagique, puis en essayant de comprendre tes modèles financiers-là auprès du client, je voyais que c'était ça ma clé. Tu sais, c'était ça ma clé pour l'international, c'était ça ma clé pour la pérennité de mon organisation. Puis, c'était ça une clé complémentaire à ce qu'on faisait. Parce qu'on était déjà chez ces clients-là qui achetaient l'informatique traditionnelle. Et c'est ces clients-là aussi qui prenaient le fameux virage vers l'info nuagique. Qui de mieux que nous pouvait faire ce virage-là avec les clients? C'était logique pour moi. Fait que là, dans le fond, ma compétition devenait le nuage ou devenait le fournisseur TI. Mais de l'avoir les deux combinés, ça se faisait pas. Fait que on est les seuls à peu près là qui à l'époque, en fait, on était les seuls qui avions combiné. J'étais un fabricant de nuages, puis je suis un revendeur TI. Puis selon ce que tu es rendu dans ton évolution vers le nuage, ben je vais pouvoir t'accompagner.
Bien sûr. Ce qui est totalement fantastique, c'est que tu contrôlais déjà ta distribution. C'est-à-dire, si tu étais capable, avec tes équipes à l'interne, de bâtir la bonne technologie, la bonne infrastructure, ton carnet de clients attendait ce service-là. C'était une question de temps, là.
Tu sais, c'est la mise à disponibilité de ressources, là. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que nous, on bâtit la solution. Des fois, là, tu sais, je vais faire évoluer une solution de sauvegarde ou une solution de recouvrement en cas de désastre. Ça va me prendre un an et demi, la déployer chez nous à l'interne. Ça va prendre des technologues qui vont apprendre à comment la livrer chez le client. Ça va prendre de la documentation. Ça va prendre de l'intégration avec les autres composantes de mon cloud. Fait que, tu sais, c'est là qu'on se disait, Micrologique, c'est le produit de revente. Les projets Cirrus, c'est le volet manufacturier. Parce que là, on devenait manufacturier et on ajoutait, dans le fond, notre saveur, on ajoutait notre expertise, autant notre expertise au niveau de la compréhension que notre expertise de déploiement. Cette semaine, on avait une réunion, c'est drôle qu'on parle de ça, parce que cette semaine, j'avais une réunion avec mon équipe de développement. Puis, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ça, on peut aller chercher un brevet? Est-ce que ça, on peut aller chercher un brevet? Parce que ce qu'on fait, c'est unique. Parce que ce qu'on fait, on l'a déployé, développé pendant des années. Fait que cette fonctionnalité-là est-tu brevetable, entre guillemets? Fait que là, tu vois, on commence vraiment à parler de Micrologique comme étant manufacturier avec les certifications, avec les, tu sais, tout ce qui tourne autour de manufacturier, de produits. Là, on rentre dans cette ligne-là. Fait que tantôt, quand tu faisais l'analogie des phases, là, on rentre dans la phase produit. Tu sais, le revendeur qui vend, qui génère un volume énorme, qui fait une profitabilité importante, qui réinvestit, qui fabrique un produit, puis là, c'est ce que tu sais, là, qu'on rentre.
Fantastique. Et bon, j'aimerais peut-être qu'on soit capable de parler un petit peu ensemble de tout ce volet des équipes. J'aimerais que tu me parles un petit peu à quel point dans un contexte, parce que il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter aujourd'hui, Stéphane, qui ont des organisations de services et qui veulent aller dans le produit. Disons que si on le simplifie, là, c'est un peu ce que vous avez fait, mais je le simplifie. Mais vous avez toujours une part importante dans le service. C'est quoi la clé, selon toi, pour réussir une transition de la sorte? Parce que ça a été une transition qui, de l'externe, s'est bien fait, contrôlée et qui, avec du recul, a énormément de succès. La clé, selon toi, qu'est-ce qu'on a de besoin pour être capable de bifurquer d'une organisation strictement de service, d'achat de matériel, comme tu l'as mentionné, à une organisation qui a encore une ligne d'affaires de service, bien entendu, mais qui semble avoir le futur de son organisation orienté autour, encore une fois, je le simplifie, d'un produit.
tantôt, tu faisais allusion, tu disais que c'est pas juste Stéphane qui est bon vendeur là, qui a vendu 100 millions. T'avais raison. Puis il y a un petit bout où ce que le Stéphane vendeur, avant qu'il vendait aux clients, maintenant, il s'est transformé à Stéphane vendeur qui vend le rêve à ses équipes. Tu comprends? Fait que si l'équipe endosse le rêve, c'est vraiment plus facile que si tu donnes des directives à ton équipe puis que tu leur dis quoi faire, mais qu'ils savent pas pourquoi qu'ils le font, pour quel rêve qu'ils le font, pour c'est quoi leur objectif. Puis tu sais, chez nous, là, la notion de passer du produit vers le cloud, c'est notre pérennité qu'on joue. Tu comprends? Les gens de Micrologique qui aiment l'entreprise, qui trippent sur la vibe, qui trippent sur les collègues, qui trouvent qu'on a un noyau de compétences et d'expertise incroyable, qui veulent, dans le fond, faire carrière chez nous, sont contents, eux autres, de savoir que je suis en train de préparer le prochain coup, que je suis en train de jouer la pérennité de l'entreprise de façon positive. Alors, il y a une adhésion qui se fait à ce moment-là. Puis les gens savent aussi que je suis pas en train de sacrifier un pour passer à l'autre, mais j'ai besoin de un pour aller chercher l'autre et ensemble. Et ensuite de ça, c'est ces deux éléments-là qui vont faire notre force. Je pense que plus tu l'expliques de façon transparente à tes gens, plus tu le mets en chiffres, en images, en paroles et de façon répétée, ben plus les gens embarquent. C'est pas facile, Antoine. C'est vraiment là la clé. Là, c'est que quand tu commences à vouloir le partager. Tu te rends compte que de partager un produit, un rêve, une solution, ça va. Mais si tu essaies de partager 2-3 rêves, 5-6 rêves, 10-12 rêves, 14 solutions, 22 produits, là, ça va pas. Fait que quand tu te mets dans ce contexte-là de dire, là, il y en a trop, comment je fais pour que ça soit facile, mon message? Ben, c'est bon pour toi au niveau du marché, parce que tu deviens bon pour présenter ton organisation au marché. C'est bon aussi pour toi avec tes équipes, parce que là, tu deviens bon pour présenter tes solutions. Fait que, tu sais, tantôt, je te parlais de synthèse, là, que toutes les fois, je pense qu'il faut qu'on se revire en arrière puis qu'on se dise, bon, mais ça, c'est ce que j'ai fait dans 2-3 dernières années. C'est quoi qui fonctionne le mieux? Je synthétise, puis je repars, puis je me refais 2-3 ans. Puis après ça, c'est quoi qui fonctionne le mieux? Fait qu'aujourd'hui, on est le résultat de ces multiples synthèses-là qu'on a fait évoluer au fil des années. Fait que pour répondre à ta question, là, les entreprises de services, il faut qu'ils réussissent à synthétiser dans quoi ils sont bons et après ça, de viser uniquement les clients qui ont besoin de cette chose-là. Si on se met à dire oui à tout, ben on se met à avoir des problèmes à tout, parce que si tu dis oui à tout, tu n'as pas d'expertise, fait que là, tu vas avoir des problèmes d'implantation, de déploiement, tu ne seras pas équipé pour répondre en support par la suite. C'est des problèmes. Nous, là, si tu me demandes c'est quoi les erreurs que tu voudrais plus refaire, c'est la fameuse gratte là, que je te parlais tantôt, de prendre tous les clients, de prendre toutes les opportunités, c'est commun, là, tous les business vivent ça, mais jusqu'à quand? Autrement dit, ça prend des décisions courageuses là, très à des séquences quand même assez rapprochées pour pas justement prendre des éléments dans ton entreprise qui ne vont pas t'amener à ton but. Tu sais, il faut que le but soit clair pour l'ensemble du monde. Puis quand ils viennent te poser une question, on le fait-tu ou on le fait-tu pas? Mais la première réponse qu'il faut que tu poses, c'est ça nous aide-tu à atteindre notre but? Puis si la réponse est non, on va le mettre sur le côté. Puis quand on va rechanger de but, de rêve, on l'analysera à nouveau. Ça, c'est faut que ça devienne automatique et à chaque jour, là. Pas juste une fois de temps en temps.
Intéressant, fascinant même. Et bon, Stéphane, ton entreprise grandit assez rapidement et en 2002, tu reçois le prix de PDG de l'année, les affaires. Tu témoignes à ce moment-là dans un article qui était sorti d'une ambition de conquérir le marché américain. Tu parlais oui. À ce moment de faire le tout via des acquisitions. Tu nous disais même au départ de l'entretien que ta force, c'est de prendre des organisations en déclin, de les redresser et par la suite faire de la croissance. C'est un peu ce que je lisais dans ton plan d'action. Tu voulais peut-être aller chercher des joueurs sur la côte Est, dans ton secteur, acheter, bien entendu, les actifs, l'organisation, le fonds de commerce et aller vendre ta solution au projet Cirrus. Est-ce que ce plan est toujours d'actualité et est-ce que ça a fonctionné jusqu'à maintenant?
C'est une bonne question. La notion pour moi d'étendre notre prestation, c'est tout le temps dans le contexte comment je fais de façon réaliste pour répéter ce qui fonctionne bien ici. Fait que dans le secteur du cloud, c'est plutôt, je vais l'appeler facile, dans le sens où tu déploies des centres de données, tu déploies des équipes, puis les clients, ils sont toujours proches, dans le fond, de tes centres de données. Il faut que, tu sais, le fournisseur infonuagique, là, il faut que tu sois pas trop loin de ton centre de données. Donc, Québec, Montréal, Toronto, l'Ouest canadien, tu sais, fait que pour nous, là, c'est visuel, ça se fait, t'as les centres de données, tu mets les équipements, tu mets les équipes. C'était facile pour moi de l'expliquer, puis c'était facile pour moi de le figurer. Mais quand on sortait des frontières, je me disais, là, c'est plus nous, là, c'est plus notre territoire, c'est un marché qu'on connaît moins. Fait que ça va nécessairement passer par des acquisitions d'autres revendeurs qui ressemblent possiblement à Micrologic et que, dans lesquels on va insuffler un peu la même gouvernance, la même stratégie d'attaque, etc., etc. Donc ça, c'était pour moi la seule façon ou la façon que j'avais trouvé pour l'international. Et depuis le temps, comme je dis souvent aux gens, ChatGPT est arrivé et ChatGPT nous a donné à nous l'opportunité de bonifier notre offre infonuagique avec l'intelligence artificielle. Donc, on s'est ramassé chez NVIDIA en Californie pour leur expliquer que on avait réussi à bâtir le cloud souverain pan-canadien et que là, on voyait le potentiel de marché pour l'intelligence artificielle arriver et que nous, on est en train de se chercher une façon d'étendre notre offre de service à l'international. Donc, le mariage de NVIDIA et de Micrologic pour le volet d'intelligence artificielle est arrivé avec cette réponse-là de comment exporter notre prestation de service à l'international, ben ça va être les gens, dans le fond, qui vont venir consommer le traitement de l'intelligence artificielle chez nous dans nos installations et qui vont, par le fait même, utiliser l'ensemble de la suite des services de projet Sage. Fait que c'est un peu... je t'ai fait un grand détour, là, mais c'était pour t'expliquer un peu, pour nous, le volet scale à l'international va se faire de quelle façon. Ben merci à ChatGPT.
Donc, l'intelligence artificielle vient changer un petit peu.
Ouais, oui, ça allait complètement changer. Tout à fait. Plus facile, honnêtement. Tu sais, comme je dis souvent à des gens, là, on commence à déployer nos premières solutions de NVIDIA, puis on n'a même pas enlevé les boîtes encore, puis on reçoit déjà des appels. Fait que le marché est sur un hype en ce moment sans précédent. Tout le monde à travers le monde, dans les entreprises, cherche à faire du learning de leur business ou de leur processus ou de leur n'importe quoi, mais ils cherchent à faire du learning. Et ils ont besoin de processing power, ils ont besoin.
Bien sûr.
Fait que c'est la course au processeur actuellement. Et il fallait être là, il fallait avoir le capital aussi, parce que ça prend énormément de capital pour bâtir ces fermes-là de serveurs. Tu sais, les gens réalisent pas, mais quand on dit qu'on a bâti un cloud, on n'oublie pas ce que tu as dit en introduction. Tu sais, c'est une business de 1,3 milliard qui a investi des centaines de millions pour fabriquer des centres de données, pour fabriquer des offres de services, pour bâtir des équipes. Tu sais, on en parle tout le temps comme le petit revendeur à Apple du coin de rue, mais aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde, puis c'est la première fois qu'il nous regarde, mettons, il pense même pas qu'on était une boutique un jour. Là. Il dit, OK, vous êtes un des gros pan-canadiens au niveau infonuagique. Tu sais, fait que nous, on rit un peu quand on parle notre histoire du début, mais aujourd'hui, quand les gens viennent nous visiter ou qu'ils visitent nos centres de données, c'est comme si tu visitais un centre de données de Rogers à Toronto ou de TELUS. Ouais. Là, c'est comme, c'est immense. Là, c'est immense.
Intéressant. Bon. Ce qui est également très intéressant, Stéphane, c'est que tu as bâti tout ça. Et là, peut-être que tu pourras me corriger ici parce que je sais que de plus en plus, vous accélérez votre croissance. Donc, peut-être que la dynamique a changé un peu, a évolué. Mais tu le fais sans financement externe. Exact. Si je ne me trompe pas, tu es seul actionnaire de l'organisation aujourd'hui. Tu me confirmes?
Exact. Moi, je confirme que je suis seul et je confirme qu'il n'y a pas d'équité pour personne. Donc, oui, je suis seul. Tu sais, quand tu fais une business qui est rentable et qui est profitable, tu gères toi-même ton cash flow. Tu sais, si t'as de la liquidité puis t'as du cash flow, moi, dans mon cas, moi, j'ai décidé de le réinvestir de façon intégrale et de l'utiliser pour nos opérations de façon intégrale. Mais, tu sais, j'ai jamais eu besoin de me diluer. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est bon ou que c'est pas
pourquoi
bon de
faire,
diluer ou
pas sûr.
Diluer. C'est ça, tu sais, c'est l'objectif, je pense, c'est de prendre le bon véhicule financier au moment où t'en as besoin. Donc, j'en avais pas eu de besoin jusqu'à tout récemment. Et là, comme on disait tantôt, 100 millions de revenus récurrents, c'est 300 millions de ventes de contrats infonuagiques, c'est beaucoup, beaucoup de volume. Fait que là, notre propre liquidité était pas suffisante. Fait que là, ça me prenait une injection de part des investisseurs. On l'a fait en dette, l'injection, parce que là, tu vas souvent me poser la question, pourquoi? Parce que je n'étais pas obligé d'aller en équité, premièrement. Et
ben,
deuxièmement...
C'est moins dispendieux de la dette que de l'équité rendu là.
C'est ça. Et non seulement ça, mais le cloud était déjà construit. Nos contrats étaient déjà là. On était rendu dans la phase de « j'ai besoin d'oxygène pour livrer mes mandats ». Donc, c'était plus facile pour nous d'arriver, je te le dirais, avec le gros bout du bâton, là, puis de chercher les bons partenaires pour le faire. Puis, honnêtement, ça a été un super exercice parce que même si j'étais excessivement fier d'avoir bâti cette business-là sans financement, capital action fermée, etc., etc., j'étais aussi excessivement fier que des partenaires viennent valider ce qu'on avait fait. Que de voir un peu la structure de notre organisation, entre guillemets, la valorisation, premièrement, tu sais, est-ce que la valeur continue de croître? Parce que, tu sais, je fais quand même évaluer souvent la business. Puis ça, je pense que c'est sain pour tout entrepreneur. Aux 3 ans, à peu près, là, je fais réévaluer l'organisation. Puis ne serait-ce que pour voir les fameux triggers. Là. C'est quoi les triggers qui sont très, très valorisés en ce moment dans le marché? C'est quoi que les investisseurs regardent? C'est quoi que les financiers regardent? C'est quoi que les clients ont besoin? Puis, tu sais, j'essaie de faire un mariage avec ça, mais si tu connais ces métriques-là au départ, ben c'est facile d'adapter ton modèle pour ces métriques-là. Puis, fait que c'est ça. Là, on a bâti un projet de 150 millions de croissance. On est allé chercher la première tranche en dette. Et je sais pas encore ce qui va se passer pour les deuxième et troisième tranches. Je sais même pas en fait si je vais avoir besoin de la deuxième et troisième tranche parce que là ça va vraiment encore excessivement bien et on génère en ce moment ce que ça prend. Fait que pour vrai là c'est on a une situation extraordinaire en ce moment. Les gens, tu sais, tantôt on parlait de la grosseur des centres de données, les silos, puis la grosseur du volume, puis tu sais on parle souvent du côté business, mais ça non plus les gens réalisent pas que de faire ça. Tu sais, je suis parti avec vraiment 70 000 piastres. Tu sais, je pense qu'on devrait faire un article là-dessus au Québec. Là, 70 000 à 1,3 milliard, plus la valo que ça a donné, c'est des milliers de pourcentages de multiples de valorisation. On n'en voit pas tant souvent.
Ben non, on n'en voit pas tellement souvent. Puis je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est un exemple parfait de montrer comment le service et le produit peuvent travailler ensemble. C'est Simon de Ben de Workleap, anciennement GSoft, qui était venu sur le podcast et qui nous avait expliqué la même chose, c'est de se dire, nous, on n'a jamais eu besoin de financement chez Workleap, chez GSoft, pour la simple et bonne raison qu'on était dans le service. Dans le service, on générait du cash flow. Le cash flow a bâti les logiciels qu'on avait besoin et a également bâti notre structure de commercialisation. Donc, au final, c'est un cas qui est similaire avec toi. Tu bâtis une business, une entreprise qui est profitable, qui génère des liquidités extra et tu les utilises, tu as deux options. Tu les ramènes chez toi, tu le mets peut-être à la bourse, tu t'achètes beaucoup de choses ou tu essaies de bâtir une entreprise qui va avoir encore plus de valorisation. Et soyons honnêtes, dans la catégorie que vous opérez aujourd'hui, c'est un modèle qui bat n'importe quel autre type de modèle littéralement dans le marché, pas simplement le modèle du service, là, mais je veux dire, le modèle cloud dans le marché, c'est dans les modèles les plus valorisés dans le monde au moment où on se parle.
Oui, les multiples sont énormes et la pérennité est énorme. Tu sais, quand un client signe sur 3 ans pour un dossier infonuagique, c'est pas vrai qu'il signe pour 3 ans. On sait tous, autour de la table, incluant le client, qu'on signe pour 5 à 10 ans. Donc, c'est 5 à 10 ans dans lesquels il va y avoir de la croissance aussi au niveau des besoins. Fait que, tu sais, pour nous, le coût d'acquisition d'un client, tu comprends que il faut qu'il soit très, très grand pour que je dise non, ça vaut pas la peine, là, parce que ce client-là va rester pendant 10 ans avec nous. Fait que ça nous donne de l'oxygène, justement. Tu sais, ça nous donne de l'oxygène, puis l'objectif ultime, pourquoi nous, on a mis, tu sais, notre trigger de 100 millions de revenus récurrents puis de 250 en produits, on trouve que c'est ça le bon équilibre, dans le sens où ce que 2/3, 1/3, ça respecte qui était Micrologique au départ, ça favorise le maintien, je te dirais, de ce grand volume d'affaires-là. Et en parallèle à ça, de bâtir notre modèle de business infonuagique. C'est une business qui coûte énormément cher en produits, en capex. C'est une business qui coûte excessivement cher aussi en cerveau. Tu sais, chez nous, là, je le dis souvent, c'est des banques qui viennent déposer leurs données chez nous. C'est les plus grands ministères organismes, c'est la santé, c'est des données excessivement sensibles qui sont sur nos équipements. Donc, ça me prend des génies pour bâtir ces clouds-là. C'est des gens d'exception qu'on a. Je te le dis, Antoine, c'est des gens qu'on a là. Sont capables de faire le prochain Twitter, sont capables de faire le prochain Amazon. Ils ont juste besoin d'oxygène financier. Donc moi, quand je vois le 100 millions de revenus récurrents s'en venir, ce que je vois, c'est pas je vais cacher à ce moment-là. Je vois encore, je vais avoir de l'oxygène pour permettre à mes développeurs, pour permettre à mes équipes de faire quelque chose encore plus impressionnant. Oui, au passage, entre guillemets, sécuriser le propriétaire une fois de temps en temps, mais l'essentiel de ça, c'est de dire, je suis en train de bâtir un modèle financier pérenne. Je suis en train de bâtir un modèle financier qui est vu dans le marché avec une valorisation importante. Mais dans les deux cas, la réponse est oui. Fait que c'est pour ça qu'on considère qu'on est choyé en ce moment-là. Tu sais, puis pas choyé à cause du marché, mais choyé à cause des équipes. On a des gens d'exception. Puis j'ai compris au fil des années, c'est quoi que ça voulait dire l'achat local. Je le comprenais comme un peu tout le monde le comprend. Là, t'achètes ta pomme à l'épicerie, t'encourages un producteur local. Tu sais, je comprenais ça, mais pas tant. Mais quand t'es dedans, là, quand tu vois tes équipes t'arriver puis te présenter des idées qu'ils ont faites puis tu te dis, hey, ça n'a aucun bon sens, on pourrait mettre un brevet là-dessus. Ou quand tu vois une grande banque te dire, ben j'hésitais entre Amazon puis vous autres, puis on prend vous autres parce que la valeur que vous avez est vraiment impressionnante. sais, quand je te dis une grande banque, là, c'est une très, très grande banque. Là. Il y en a 5 grandes au Canada, là, c'est une des grandes. Puis que là, tu déploies, puis que ça fonctionne, puis que tu te fais appeler par les gens, puis qu'ils te disent, ben si vous avez besoin de référence, on va en donner pour vous autres.
Puis les références, habituellement, c'est des gros comptes aussi. Hein?
ça donne du gaz, je te dirais, ça donne du gaz à une entreprise. Puis c'est là que l'achat local, tu te dis, OK, tu sais, j'ai parti une business, oui, mais j'ai surtout mis en place un noyau de gens compétents. Puis je leur ai donné ce que ça leur prenait pour faire des choses d'exception. Puis là, tu leur permets en fait de bâtir de quoi d'exceptionnel. C'est ça. L'achat local, dans le fond, ce que ça permet, là, c'est une business comme Micrologique de peut-être un jour sortir du lot à l'international ou au niveau national et d'arriver en se disant, ben oui, ils étaient partis d'une boutique, ils ont généré un volume, ils ont parti un cloud, ils ont fait un volet pan-canadien. Puis en faisant ça, ils ont appris quelque chose, ils ont compris quelque chose qui, là, est exportable. Tu sais, c'est ce cycle-là, là, je serais pas surpris dans 3 ans de réécouter ce podcast-là et d'être complètement bullseye, avec ce que je viens de dire, là. Ce que je vois à date, c'est exactement ce qui se passe.
Ah, c'est fantastique. C'est inspirant, Stéphane, de t'écouter. Et bon, ça me donne une transition pour poser la question. Qu'est-ce qui vous attend dans les 12-24 prochains mois?
Ben, là, on est dans un blitz intense, là, de prise de marché. Fait que le secteur fédéral, pour nous, c'est un point important qu'on est en train de toucher. L'Ontario, Toronto, c'est un point important qu'on vient de toucher. Le Grand Montréal, au niveau de la corporation, on n'est pas assez connu dans le Grand Montréal. Les entreprises les plus grandes pensent encore que le cloud, c'est juste américain, alors que là, on sait, tu sais, la fameuse tendance actuellement, là, c'est les clouds souverains. C'est ce qu'on est, nous, un cloud souverain. Uh-huh. Et avec tout le contexte géopolitique actuel, avec tous les problèmes de sécurité actuels, les gens veulent envoyer leurs données dans un cloud de confiance et non plus, de moins en moins dans un cloud public. Tu sais, les chiffres le parlent. Le marché canadien de l'info nuagique, là, c'est 10 milliards par année. De ces 10 milliards-là, il y en a 75% qui vont être au grand cloud. Mais il y a 25% qui est au cloud souverain, au cloud locaux, ou au cloud alternatif. Aux États-Unis, 25%, tu vas dire, ils sont 300 partenaires qui se partagent ce fameux 25%-là. Mais au Canada, on est très, très peu. En fait, à peu près inexistant. Fait que pour moi, là, le marché potentiel pan-canadien, il est immense. Fait que pour les 12, 24, 36 mois, ce qu'on fait, c'est vraiment partir à la conquête de ce marché pan-canadien-là, des clouds souverains, et continuer, en fait, à faire vivre le côté produit de Micrologique et le côté revendeur TI de Micrologique en symbiose pour faire partie de cette journey-là que les clients font aussi en simultané. Puis, continuer aussi à trouver notre magic secret. Là, il y a quelque chose tout le temps. Tu sais, quand un client te rencontre, là, c'est quoi tu fais dans la vie? Bon, ça, c'est beau. J'ai compris maintenant comment te catégoriser. Puis, qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres? Fait que moi, c'est le qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres là, qui est très important. Puis comment faire pour répéter cette histoire-là? C'est tantôt quand tu disais qu'est-ce que les gens qui font du service devraient répéter, c'est ça, c'est la répétition. Il faut que l'offre de service soit standardisée, soit répétable, soit le plus souvent fait possible.
Hein, c'est ce qu'on utilise.
Absolument.
Exactement.
Absolument. C'est ça. Mon secret à moi dans ce créneau-là du service, ça a été ça. Sinon, c'est vraiment difficile.
Puis sinon, tu peux pas recommencer à zéro à chaque fois, là. C'est trop compliqué.
C'est difficile de recommencer à zéro. C'est difficile. On se donne plus d'ouvrages. Puis tu sais, c'est pas compliqué, là. On en a de l'ouvrage, là, nous autres. On en a beaucoup. Fait que j'ai pas besoin de mettre des énergies corporatives, autant financières que humaines, dans quelque chose qui est compliqué. Puis tu sais, on veut que ça soit sacoche, là. Puis on veut que ça soit droit puis répétable. Fait que ça va être ça les 24 prochains mois, puis les 12 prochains mois.
Ouais, ben écoute, je pense que vous allez avoir beaucoup de pain sur la planche. Et dis-moi, des petites questions personnelles pour toi avant de terminer. Ouais. J'aime toujours savoir ce que mes invités lisent. Avec tout ce que tu as accompli, j'imagine que tu l'as trouvé quelque part, cette inspiration-là. Quel livre a marqué ton imaginaire?
Ben, j'ai deux éléments à dire là-dessus. Le premier élément, c'est que j'adore les livres de business, mais je suis aussi une personne hyper stimulée. Fait que quand je coupe les livres là, à 7-8 heures, là, il faut que je lise autre chose que sur les affaires ou que sur la business. Sinon, je suis hyper stimulé. Fait que là, tu sais, je suis dans les Ken Follett, là, les piliers, puis je suis en train de me taper ça. Fait que la romance, beaucoup, je vais dire ça à partir de 8 heures. Sinon, dans les heures normales, là, Good to Great, c'est le dernier que j'ai lu. Jack Canfield, tu sais, très technique, mais très, tu sais, Good to Great, là, c'est un livre que j'avais lu à l'époque, que j'ai relu dans le temps des fêtes, puis que je vois l'application de ces méthodes-là qui sont très, très simples à expliquer à tes équipes, puis qui sont tellement Ils te servent en fait d'appui pour dire à ton équipe, ce que je suis en train de faire là, c'est basé sur une recherche qui a été faite sur tant d'organisations. Fait que c'est ce genre de bouquin là qui m'inspire.
Podcast, est-ce que tu en écoutes un peu?
J'écoute le tien. J'en écoute beaucoup des podcasts, honnêtement. J'aime la liberté que les podcasts procurent. Tu sais, l'espèce de filtre journalistique qui est un peu retiré, puis que là, on entend plus la personne, l'humain, qui parle pas juste de sa business avec son offre de service, mais qui parle de lui. J'aime beaucoup cette façon de faire-là. J'ai pas fait beaucoup de podcasts comme invité, honnêtement, mais j'adore la formule des podcasts.
Est-ce qu'il y en a certains, tu as mentionné Hypercroissance, on veut le prendre comme un compliment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont marqué ton attention que tu pourrais partager avec nos auditeurs?
Non, je suis un furteur de podcasts. Fait que j'en écoute, plusieurs. Là. Tu sais, la petite cloche, là, moi, je pince souvent cette cloche. Tu sais, je fais beaucoup de navigation aussi. Un de mes hobbies, moi, c'est de la navigation. Fait que j'écoute beaucoup des podcasts. Hein. En fait, j'adore voyager, mais sur l'eau. Donc, je regarde beaucoup des histoires de famille qui partent, puis qui partent à l'aventure en voyage. J'adore ça.
Et je terminerai la routine du président. À quoi elle ressemble? Le matin, le midi, le soir, est-ce qu'il y a des blocs spécifiques pour certains projets spécifiques également? Je serais curieux de t'entendre.
Oui, je travaille en time block. Encore une fois, ça m'aide. Là. Quand t'es hyper stimulé, centraliser tes bébelles, là. Fait que je commence très tôt le matin, je travaille sur mon tapis roulant du matin au soir. Je marche là, tout le temps, sauf là en ce moment je suis en podcast, mais je marche tout le temps, même quand je suis en réunion avec les clients, le télétravail pour moi je l'ai trouvé difficile là, de m'adapter à cet environnement-là. Le volet social, oui, mais surtout le volet, je suis à la maison, je suis comme un peu plus ami. Fait que ça, le tapis roulant sur mon bureau, ça fait un job. Time blocking, j'essaie sur l'heure du dîner d'aller prendre l'air puis de sortir dehors. Puis je suis quand même très focus. Quand je rentre dans mon rôle de président, je suis très focus. Puis quand je ferme la switch. Pour moi, l'équilibre de vie là, je suis un père, je suis un chum, je suis un ami, puis je suis un président. Fait que pour moi là, c'est super important d'avoir cet équilibre-là. Fait que je vois, tu sais, des fois j'arrive puis je vois mon bureau puis mon tapis roulant. C'est comme si j'embarquais dans ma séquence de travail. Après, je débarque de cette séquence-là puis je suis capable de faire un cut-off puis de dire. Demain, je vais être reposé et je vais redevenir en santé. Fait que j'ai pas besoin de travailler le soir, j'ai pas besoin de travailler la nuit. Je voyage très, très peu aussi pour le travail. J'essaie d'éviter toutes ces affaires-là parce que je suis vraiment focus sur mon objectif, focus avec mes équipes. Je parle beaucoup à mes équipes aussi. À tous les vendredis, on a ce qu'on appelle le vendredi logique. C'est 350 personnes sur mon écran. Puis là, je leur parle de c'est quoi la vie de Stéphane. Pas la vie du président qui essaie de le vendre quelque chose. Mais la vie de Stéphane qui a vécu comme président cette semaine. Fait que ça aussi, ça fait un rapprochement avec les gens qui ils voient pas juste un président avec une carte d'affaires là, ils voient que tu sais je suis Stéphane qui un jour était bon dans ce qu'il faisait puis qu'il a pris 2-3 bodés avec lui puis qu'il a dit go, on s'en va faire une entreprise puis c'est ça aujourd'hui là, c'est rien de plus que ça puis c'est la même gang qui me suivait à l'époque qui sont encore avec moi aujourd'hui. Fait que c'est ce qu'on fait, on est en train de réaliser ce projet-là qu'on avait il y a 10, 15, puis 20 ans.
Est-ce que tu travailles toujours de chez toi?
Je te dirais, je vais au bureau peut-être une journée par semaine. Maximum une journée par semaine. Ouais, la majorité de mes entrevues maintenant, puis la majorité de mes réunions sont debout sur mon tapis roulant, puis à distance.
Ah, je trouve ça fascinant. Ouais. Vraiment fascinant, ouais, Stéphane. Ouais. Ton histoire est vraiment inspirant. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti aujourd'hui. J'en suis convaincu. Si on veut en apprendre plus sur vous, si vous avez des postes ouverts, si on veut en savoir plus sur vos services, sur le projet Cirrus, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Micrologique.ca ou LinkedIn. Stéphane, j'étais assez actif sur LinkedIn, donc les deux endroits sans problème. Puis je parle aussi en passant. Tu sais, souvent les gens me disent « Ah, oh, t'es le président, tu vas être très occupé. » Ben non, je parle encore aux clients, je suis encore direct sur le... Pour moi, c'est très, très, très important d'écouter avec mes oreilles c'est quoi que le client est en train de dire en ce moment pour savoir comment j'oriente mon organisation. Ça, c'est très, très important d'être connecté là, sur ce qui se passe.
Fantastique. Ben écoute, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Stéphane oui. Garneau, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un entretien totalement inspirant. Un vendredi comme ça termine bien ma semaine. Je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.